allez suivre est une rediffusion.
RFI. Grand reportage.
Des oies qui ont faim et qui me prennent pour la nourriture.
Cultivé dans des tunnels, des parkings, sur des terrasses d'immeubles, le phénomène est en plein développement, même si les prémices remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les espaces cultivables rétrécissent, les circuits courts séduisent. Aujourd'hui, les fermes urbaines sont en plein essor. Exemple, au Royaume-Uni, où l'on cultive à ciel ouvert, mais aussi sous terre. Londres, lumière artificielle et plantations hors sol, les tendances de l'agriculture urbaine. C'est un grand reportage d'Ariane Gaffuri.
Let's go for a walk up to the garden and we'll come back this way.
Le site a été créé en 2014 sur une ancienne terre en friche. Il a fallu enlever tous les détritus, les seringues, jeter par-dessus la clôture et nous l'avons transformé en ce que vous pouvez voir ici.
Nous sommes à Oasis Waterloo, une ferme au cœur de Londres, en compagnie de Michelle Zanner, une des responsables, et de trois oies curieuses. On n'entre pas ici comme dans un moulin. La ferme est entourée d'une clôture et s'étend en longueur sur plus de 2000 mètres carrés. Autour, la grisaille d'immeubles d'habitation, d'un hôpital et d'un hôtel.
Nous avons divisé l'espace en trois parties. Tout au fond, nous avons une grange où nous organisons des événements pour lever des fonds. Il y a une serre et cette partie-là, notre potager hors sol. Nous avons installé des bacs en bois surélevés remplis de terreau car ce site a été tellement exploité au fil des ans qu'il n'y a que de la pierre sous nos pieds.
Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre jardin? Qu'est-ce que vous avez planté?
Nous changeons selon les saisons. En ce moment, comme c'est l'hiver, nous avons des capucines là-devant. Elles poussent toute l'année et les fleurs sont comestibles. On a des blettes, du céleri, des poireaux au fond. Nous avons 5 rangées de bacs potagers et il y a une rotation des cultures à chaque saison. S'il y a eu du maïs une année, il y aura de la tomate l'année suivante pour que les réserves nutritives que les plantes laissent dans le sol fertilisent celles qui les succèdent.
La vente ponctuelle des produits de la ferme ne suffit pas à assurer son fonctionnement. Oasis Waterloo est ouvert seulement 2 ou 3 fois par mois au public. Elle survit grâce aux donations et aux actions de proximité et de réinsertion. Michel Zanner.
Une de nos actions envers les jeunes, c'est l'accueil de groupes d'adolescents en décrochage scolaire. L'idée est de leur démontrer que s'ils ne sont pas bons en maths, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont bons à rien. On leur dit, si vous pensez ne pas être capable de faire du compost par exemple, mais que vous essayez et y arrivez, quoi d'autre pensez-vous ne pas pouvoir faire alors que vous le pouvez?
Alors là, ici, il y a des chèvres et des porcs.
Oui, ils sont doux de nature et les jeunes peuvent les caresser. Les ados qui viennent ici passent leur temps à jouer au dur, mais avec les animaux, ils peuvent montrer leur vulnérabilité plus facilement qu'avec des êtres humains. En plus, ils peuvent s'en occuper, balayer derrière eux.
La ferme et ses bâtiments à ossature en bois totalement démontables ont été construits gratuitement il y a 6 ans par un cabinet d'architectes avec le soutien de l'association Guy's and St. Thomas. Mais avec un prix moyen de 15 000 euros le mètre carré, la pression foncière à Londres est un défi permanent. Ingrid Petit, architecte chez Field & Fowles.
La parcelle appartient à l'hôpital qui est juste à côté et l'hôpital a pour projet de développer cette parcelle mais aussi les parcelles adjacentes pour un nouveau centre de cardiologie et aussi des logements pour les infirmiers, etc. Du coup, on savait que c'était un projet à court terme. Et alors maintenant, on essaye de trouver des solutions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et surtout pour la ferme parce que nous, on est une agence d'architecture, du coup, on pourra déménager. Mais la ferme, c'est quand même un beau projet, c'est quelque chose qui a aidé des élèves dans le sud de Londres. Du coup, c'est essayer de leur trouver un autre endroit où on pourrait réimplanter la ferme. Et ça, c'est en cours. On a commencé à discuter avec la mairie, mais également d'autres promoteurs pour savoir s'il y aurait d'autres parcelles près d'ici. On croise les doigts.
Nous Nous prenons la ligne nord du métro de Londres pour King's Cross, où se trouve Saint Pancras, gare d'arrivée de l'Eurostar. Nous avons rendez-vous dans un jardin potager public, le Calthorpe Garden, avec Marina Cheng, agronome à l'université de Coventry.
De 2005 à 2012, avant que le Royaume-Uni organise les Jeux Olympiques de 2012, Boris Johnson, qui était maire de Londres à l'époque, a lancé une campagne pour promouvoir les fermes urbaines. Son slogan, en 2012, il y aura 2012 fermes urbaines et communautaires à Londres. Et il a réussi, même dépassé son pari. Mais tous les sites ne sont pas productifs ou axés sur la collectivité. Et si je vous ai invité ici, c'est parce qu'ici, il y a une longue tradition d'engagement communautaire. Alors bien sûr, les fermes urbaines ne produisent pas suffisamment de nourriture pour nourrir la population. Mais c'est important de les protéger, car elles permettent de reconnecter le monde urbain avec le monde rural, au lieu qu'ils soient totalement séparés. Nous sommes entourés de logements sociaux, d'écoles et d'une population très dense du centre-ville. Ce jardin existe depuis 35 ans. Sa surface dépasse les 5000 mètres carrés. Ils sont divisés en 7 ou 8 sections, surtout des jardins communautaires. Là, c'est une serre où poussent des semis. Tout est bio. Les légumes sont cultivés pour la vente. Il y a beaucoup de bénévoles et chaque jour, il y a une activité différente. Le vendredi, par exemple, un groupe vient jardiner, puis cuisiner ensemble et partager le repas. Et au fond, c'est notre jardin sauvage. Attention, mieux vaut ne pas trop s'approcher. Là, il y a des ruches et nous récoltons le miel. Nous avons aussi un petit étang. Nous appelons cela un mini-lotissement. Cet espace est réservé aux femmes du Bangladesh, tout particulièrement depuis 25 ans. Car dans ce quartier, il y a une immense communauté bangladaise. En été, ces femmes se retrouvent ici et elles cultivent leurs produits traditionnels.
Ce sont de tout petits potagers. C'est des petits rectangles d'un mètre cinquante par un mètre à peu près.
Chaque emplacement est petit, mais il peut être très productif.
Calthorpe Garden est un lieu de vie. Un bâtiment en bois abrite un café-restaurant et rien ne se perd. Tous les déchets alimentaires sont recyclés grâce, accrochez-vous, à un système de micro-digestion anaérobique à l'étude au fond du jardin. L'agroécologiste Rokia Yaman gère ce laboratoire vivant.
La micro-digestion anaérobique est une sorte de compostage. Micro parce que c'est petit et digestion anaérobique parce que c'est sans oxygène. Quand vous mettez des déchets organiques dans une cuve sans oxygène, ils se décomposent et produisent du gaz au stade final de digestion. Ce gaz est un carburant vert composé de méthane et de dioxyde de carbone. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, chauffer, générer de l'électricité. Ce procédé produit également un engrais liquide qui sert à fertiliser les sols et les plantes. C'est important parce que nous sommes face à de sérieux défis climatiques et nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les déchets alimentaires en produisent beaucoup. À Londres, environ 45% des déchets ménagers qui vont dans les décharges sont des matières organiques qui se décomposent en dioxyde de carbone et en méthane. Ce sont les mêmes gaz que ceux que nous capturons avec notre technologie. Mais lorsqu'ils sont libérés dans l'atmosphère, c'est une des causes principales du changement climatique.
Quatre salariés permanents travaillent avec 500 bénévoles par an, souvent des gens du quartier, parfois âgés, qui aident à la cuisine, au jardin. Pour certains, c'est un moyen de sortir de l'isolement.
Je suis Virginia Cucci, je suis en charge d'un programme de réinsertion ici à Calthorpe, dédié aux personnes séropositives de plus de 50 ans. L'objectif est de les aider à surmonter la discrimination et l'isolement qu'elles ressentent. Je suis moi-même séropositive, et dans beaucoup d'endroits, on n'est pas les bienvenus. Mais ici, à Calthorpe, le jardinage, la cuisine permettent de se sentir mieux physiquement et moralement. Nous nous soutenons les uns les autres, développons des amitiés. C'est un endroit apaisant au centre de Londres.
And we get support in between each other. We cultivate friendships. It's a calming space in central London.
Mais tout cela a un coût et la survie de ce lieu privilégié est fragile. Marina Chang la défend bec et ongle.
Last year, 2018, our reserve.
En 2018, nous étions sur le point de licencier car il nous restait moins de 6 000 euros pour tenir. Mais nous avons travaillé dur pour trouver de l'argent. Finalement, les gens du voisinage ont donné et cela a attiré d'autres investisseurs. C'est la loi d'attraction. C'est le début qui est difficile. Il faut 350 000 euros par an pour fonctionner. C'est très peu, car la ferme est ouverte 365 jours par an. 30 000 visiteurs viennent ici chaque année. Nous ouvrons tous les jours depuis 35 ans. Ce n'est pas rien.
Qui pourrait imaginer prendre un ascenseur souterrain pour entrer dans un potager?
C'est à 33 mètres de profondeur. Suivez-moi.
Un passionné d'agriculture durable a eu cette idée incroyable. Cultiver des jeunes pousses et des salades dans un tunnel anti-bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale. Propriété de la Société de Transport de Londres, ce tunnel s'étend sur 100 mètres sous la capitale britannique. Visite avec Richard Ballard, cofondateur de Growing Underground.
Il faut enfiler cela, c'est un filet pour les cheveux. Ce sont des mesures de biosécurité avant d'entrer dans le tunnel. Une protection pour la barbe pour moi. Il faut retirer ses chaussures, passer du côté propre et enfiler des bottes. Une combinaison, bien se laver les mains et on est prêt à entrer dans la ferme.
Non, mes bottes sont un peu grandes.
On ne va pas loin. Là, ce sont des pousses de pois mange-tout, là de brocoli. Sur ces chariots, il y a des graines de cresson. C'est comme celles qu'on faisait pousser à l'école sur du papier sopalin. Le même principe est utilisé pour faire pousser toutes sortes de semis. De la coriandre, radis, fenouil, de la ciboule. Ça, c'est le substrat que l'on utilise. C'est de la moquette recyclée. On laisse germer les graines ici pendant 3 à 6 jours. Puis la croissance continue dans la partie potagère pendant 5 à 12 jours. C'est très rapide. Ça, c'est le tunnel de croissance. Nous avons là des bacs de végétaux placés sur des étagères. Entre, il y a les néons violets des LED. Ils produisent de la lumière et de la chaleur. En dessous, nous avons des réservoirs d'eau et un système de filtration. L'eau remonte, irrigue les plantes, puis redescend. Et ainsi, ce processus de recyclage recommence.
Alors là, vous m'avez fait goûter quelque chose, mais je n'arrive pas à deviner ce que c'est.
Sunflower.
Sunflower, du tournesol. Eh bien, c'est très bon.
Les avantages de cultiver dans cet environnement, c'est que nous avons une température constante, environ 15 degrés toute l'année. Avec tous les équipements que nous avons, nous pouvons contrôler la température parfaite, l'humidité, le dioxyde de carbone dans une certaine mesure, ainsi que la vélocité de l'air. Donc on produit toute l'année et on n'utilise pas de pesticides sur nos cultures.
Quel serait le défi de ce modèle quand on sait que le LED, par exemple l'électricité, coûte très cher?
Oui, c'est vrai. L'essentiel de notre énergie provient de la ventilation. Les gens pensent que la lumière coûte cher, mais c'est surtout la ventilation et le contrôle de la température qui sont le plus cher. Nous sommes dépendants des investisseurs pour le moment. Nous sommes un peu justes financièrement, mais cela changera quand nous agrandirons la ferme.
Est-ce que le Brexit a des conséquences sur votre affaire ?
Oui, le Brexit a déjà affecté notre affaire. On a moins d'employés européens. Notre personnel est plutôt britannique et c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre ici.
Richard Ballard a obtenu un bail de 25 ans pour exploiter les premiers 100 mètres du tunnel. Il produit 60 tonnes de micro-pousses par an et espère atteindre les 400 tonnes s'il agrandit la ferme sur un kilomètre. Pour l'heure, Growing Underground emploie une cinquantaine de personnes. Dans sa blouse bleue, Eva, la cinquantaine souriante, explique à sa voisine comment peser les barquettes de coriandre fraîchement coupées et empaquetées. Eva a quitté la Pologne pour Londres il y a 6 ans.
J'ai 3 garçons, j'ai une vie de famille normale ici au Royaume-Uni. Je travaille ici, c'est pratique pour moi parce que j'habite tout près. C'est important parce que avant je travaillais à Notting Hill, j'avais de longs trajets. Le transport me coûtait très cher. Maintenant c'est bon marché.
Vous dites que vous ne savez pas pour le Brexit qui est-ce que ça va se passer pour vous. Are you afraid that you might lose your job with Brexit?
No.
Non, non pas vraiment, parce qu'il y a tant de changements sur le Brexit, vous savez. Alors qui sait? Et je suis optimiste. Si je n'ai pas le choix, je retournerai en Pologne. Je n'ai pas peur de cela.
Les produits de Growing Underground passent du sous-sol à l'assiette en un temps record. On les trouve dans certains magasins d'alimentation et restaurants de Londres, comme le Gavroche, propriété du chef étoilé Michel Roux Jr.
Un homard avec de la citronnelle, piment, pour le ragoût d'homard à la carte. Donc celui-là aussi, on met les petites pousses de coriandre, juste à la fin. Donc la coriandre se marie bien avec le piment, le homard et la citronnelle.
Alors moi je suis né dans le sud de Londres et j'ai toujours vécu très près de ce tunnel. Et un beau jour, il y a 4-5 ans en arrière, il y a quelqu'un qui frappe la porte et qui me dit « j'ai un projet très intéressant, est-ce que vous voudriez nous joindre sur cette aventure ?» Enfin, « business proposal ». Et ils m'ont parlé de ce fameux tunnel. Alors tout de suite, moi j'ai dit « ah je veux savoir plus » parce que c'était un rêve en étant gamin d'aller visiter ces tunnels. Et donc quand ils m'ont appris qu'ils voulaient faire une ferme, j'ai été visiter, j'ai vu comment ils voulaient opérer. Je connaissais déjà les herbes miniatures comme ça qui sont intenses en goût et je les utilisais déjà en cuisine. Et donc je me suis dit, allez on y va, on va travailler ensemble. Parce que ces petites pousses sont très jolies, il y a des belles couleurs et puis c'est hyper frais. Ils le coupent le matin, je les ai ici le midi. C'est très joli, mais ça a un goût incroyable, une intensité de goût là. On a un gratin de langoustine parfumé au curry, j'ai quelques petites pousses de coriandre dessus, ça relève le tout et ça donne une fraîcheur aussi.
Plus de 2700 potagers urbains ont été créés à Londres. Selon l'organisation Capital Growth, cela représente près de 800 mètres carrés de culture, 80 tonnes de récolte annuelle pour une valeur de 700 000 euros.
Londres, lumières artificielles, les plantations hors sol, les tendances de l'agriculture urbaine. Un grand reportage de Ariane Gaffury, réalisation Pierre Chaffangeon. Un magazine qui a reçu le soutien financier de l'Union européenne. Sometimes we get it wrong, sometimes we get it right, sometimes we sleep alone, sometimes we get caught up at night. And you've got to get your head straight. Some people wait in line, other people haven't got the time. Some people dare to dream, some people lack self-esteem. You've got to get your head straight.